Dans cette séquence, nous allons analyser quelques-uns des facteurs qui font varier l'organisation des villes. Et nous devrons choisir, sélectionner quelques éléments seulement, parce que les sources de la diversité urbaine sont très nombreuses. Nous retiendrons comme principale la localisation qui interfère avec les densités de population. Et puis, nous dirons quelques mots des plans urbains. Mais il faut bien sûr imaginer que la répartition des activités au centre ou en périphérie, la manière dont les différents groupes de population sont intégrés ou au contraire ségrégés dans les villes, introduisent de grandes sources de variété, de même que l'âge, que la taille des villes dont nous reparlerons, et puis les modes de gouvernance sont également très différents d'une ville à l'autre. Il reste que nous parlons de système à propos des villes. Il s'agit de systèmes ouverts, évolutifs, mais qui sont surtout auto-organisés. Cela paraît contradictoire avec l'idée de planification. En fait, les différents plans qui sont mis en œuvre pour réguler la disposition des rues, des bâtiments et des équipements dans les villes, eh bien, ces plans sont rarement achevés complètement et souvent remplacés par d'autres, mieux adaptés aux conditions techniques ou sociales du moment. De toute façon, une très grande variété d'acteurs interviennent dans le dessin des villes et donc ils peuvent interférer avec la mise en œuvre de dispositions légales momentanées. Plus généralement, les villes, périodiquement, sont détruites, reconstruites dans certaines de leurs parties, parfois en totalité à la suite de catastrophes ou de guerres. Et on indique que chaque ville est une sorte de palimpseste. Chaque époque ayant réécrit une partie de la ville sur les villes, la ville préexistante. Donc, nous avons dans l'ensemble des villes certaines contraintes qui, de toute façon, donnent une certaine forme d'organisation au tissu urbain. Ces contraintes peuvent être générales. Nous avons évoqué à propos du champ urbain la concurrence pour l'espace, qui est fortement contrainte par la géométrie. Nous avons moins d'espace disponible au centre qu'en périphérie, et donc les localisations centrales sont plus rares, plus accessibles, plus recherchées. Nous avons également des variations liées à la vitesse de circulation dans les villes, qui permettent de les étendre plus ou moins, suivant que ces déplacements s'effectuent à petite vitesse de la marche à pied ou à grande vitesse des engins motorisés. Nous avons d'énormes variations liées à la manière dont la propriété foncière et immobilière est juridiquement définie dans les villes. Et on peut aller d'une extrême liberté avec des parcelles ayant chacune leur propriétaire, jusqu'à une propriété indivise du sol, comme c'est le cas par exemple encore aujourd'hui dans les villes chinoises. Enfin, les normes sociales d'urbanisme sont à peu près partout aujourd'hui édictées pour définir la hauteur des immeubles, l'alignement des constructions le long des rues, et s'y ajoutent toutes les normes correspondant aux règles de l'hygiénisme urbain et des réseaux techniques qui permettent d'apporter les différentes sources d'énergie et les différents services dans les immeubles. À ces contraintes qui s'exercent partout dans les villes, s'ajoutent des contraintes que nous allons dire locales et dont nous allons voir qu'en fait, elles sont assez largement homogènes dans de vastes étendues, presque continentales, puisque en effet, nous avons des styles de peuplement qui sont attachés à chacun de ces continents. C'est ce qu'a mis en œuvre ici l'urbaniste Alain Berthaud, qui a représenté sur ce graphique en abscisse, les densités, le nombre d'habitants à l'hectare, calculé en projetant les populations sur les surfaces bâties observées sur des images satellites. de chacune des dizaines de villes qui sont portées ici en ordonnée et qui sont en général des villes millionnaires observées dans toutes les parties du monde. Chaque continent a été affecté d'une couleur différente et c'est heureux puisque on voit les villes s'organiser par leur niveau de densité très exactement en fonction de leur localisation continentale. Toutes les villes nord-américaines qui ont les densités les plus faibles apparaissent en rouge, alors que les villes asiatiques apparaissent en bleu et c'est là où les densités sont maximales. On trouve ici des villes indiennes, des villes chinoises. En position intermédiaire, nous avons des villes européennes dans la couleur jaune et les villes sud-américaines, vous le voyez, se répartissent également dans des positions plus variées, mais en général moyennes. Les ordres de grandeur associés à ces densités des villes contraignent évidemment très fortement le dessin que chaque ville va pouvoir prendre dans les pays localisés dans ces continents. Les ordres de grandeur diffèrent considérablement, avec en moyenne pour les grandes villes 2000 habitants au kilomètre carré dans les grandes villes d'Amérique du Nord, 10 à 40 000 habitants au kilomètre carré en Asie et en revanche en Europe entre 4 et 10 000 habitants au kilomètre carré. Nous avons également des variations qui sont associées à ces différences continentales des densités. Si on représente sur ces graphiques sans prendre trop de précautions, en donnant une échelle de valeur propre à chaque ville, le niveau de ces densités en ordonnée en fonction de la distance au centre qui est portée partout en abscisse, à la même échelle de kilométrage, eh bien, nous trouvons avec le même modèle d'organisation de l'espace urbain que nous avons appelé le champ urbain. Mais nous allons voir que si on figure ces graphiques avec la même échelle de niveau de densité en ordonnée, nous retrouvons des différences considérables non seulement de niveau de densité, mais aussi de gradient, de différence entre les densités les plus élevées au centre et les moins élevées en périphérie, avec donc des maxima de densité et de gradient à Jakarta comme à Shanghai ou à Bangkok, ville asiatique. Des minima à Atlanta, Los Angeles et New York, qui nous font des villes presque plates, par comparaison même avec des villes européennes comme Paris, Varsovie, Barcelone, dont les niveaux de densité sont intermédiaires et les gradients également. On peut mesurer très précisément, d'ailleurs, grâce à l'équation que nous avons vue pour le champ urbain, quel est le gradient, le degré de contraste entre les densités centrales et périphériques qui sont extrêmement forts en Eurasie? Nous avons l'exemple de Pékin et de Londres avec des coefficients de contraste de densité de l'ordre de moins 0,2 dans les deux cas. Et en revanche, en Amérique du Nord, à Chicago, à Los Angeles, vous voyez que le contraste est beaucoup plus faible. Le coefficient est inférieur à 0,01. Les conséquences en termes d'organisation de la vie urbaine sont considérables, puisque les villes qui n'ont que des densités de population très faibles ne peuvent pas rentabiliser les services de transport collectif. Et sur ce graphique, on voit que c'est le cas pour des villes nord-américaines très polycentriques, mais surtout très dispersées dans leur peuplement, comme à Atlanta. En revanche, nous avons beaucoup de transports collectifs qui sont largement rentabilisés dans des villes très denses comme Shanghai. Et puis en position intermédiaire, à Jakarta, à Paris, à Téhéran, nous avons différentes possibilités d'usage des moyens de transport individuels ou des transports collectifs. Ce qu'on retient de la variabilité des villes, c'est très souvent l'apparence que nous avons déjà observée en termes de hauteur des bâtiments, la nappe urbaine, la nappe banlieusarde des villes américaines s'opposant à la verticalité des villes asiatiques. Les villes européennes avec un patrimoine monumental au centre en général, et puis le plus souvent une mixité de formes d'urbanisme. En fait, nous avons un second facteur de variation qui est perçu mieux peut-être par les spécialistes et qui contraint l'organisation de deux schémas qui sont des schémas relativement stables tout au long de décennies, de siècles, voire de millénaires dans le dessin des villes et qui sont le dessin des parcelles, des limites de propriété du terrain et le dessin des rues qui lui aussi change très peu d'une période sur l'autre, à moins qu'on ait de très grandes opérations de planification. Les deux formes de dessin de plan de ville d'après l'organisation des rues sont connues pour être le plan régulier radioconcentrique et le plan régulier en damier. Le premier, le plan radioconcentrique, correspond à des villes qui se sont développées historiquement et qui, en général, ont été entourées d'enceintes, de murs, que l'on a démolies au fur et à mesure de l'extension de la ville pour faciliter la circulation sur des boulevards circulaires. C'est le schéma de gauche. En revanche, dans les villes nord-américaines, construites sur une idéologie égalitaire, démocratique, où on ne voulait pas reconstruire ce principe extrêmement hiérarchisé, on a des carrefours qui, vous le voyez, sont tous à peu près du même degré, 4 sur ce plan en damier. L'exemple typique d'une ville au plan radioconcentrique serait par exemple Milan, parmi bien d'autres en Europe, ou Phoenix en Arizona, pour un plan en damier, parmi bien d'autres aux États-Unis. Mais nous voyons que le plan de Pékin, qui est conçu sur un damier de rue, en suivant le plan initial donné qu'on retrouve encore dans la ville interdite et ses environs, eh bien, néanmoins est construit à coups de boulevards circulaires. Nous avons 8 de ces anneaux qui facilitent la circulation pour l'agglomération de Pékin, et le 8e anneau de Pékin a rejoint le 4e anneau de Nanjing, de Tianjin, pardon, qui se trouve être au bord de la mer. Alors, quand les plans ne sont pas réguliers, nous en avons maints exemples dans les villes qui ont une histoire médiévale encore visible dans les constructions actuelles, dans les médinas d'Afrique du Nord, dans maintes villes anciennes, comme ici à Ankara, nous voyons que le plan des rues peut être sinueux, irrégulier et épouser éventuellement les irrégularités du relief sur lequel la ville s'est bâtie. Donc, si nous devons retenir parmi ces modèle de ville, quelques exemples particulièrement typés, faciles à caractériser. Nous dirons que les villes européennes ont en général des densités moyennes par rapport aux ordres de grandeur observables dans le monde, qui valorisent les centres-villes en y ayant respecté des bâtiments anciens, des monuments, des plans en toile d'araignée radioconcentrique avec des contrastes de densité importants entre le centre et la périphérie. Et ce sont en général des villes plutôt compactes où les transports collectifs peuvent être organisés et qui présentent dans leur tissu une continuité historique de développement. Nous avons l'exemple de la suburbia américaine qui forme un autre modèle avec des densités très faibles. Des centres en général peu valorisés pour la résidence, les populations aisées surtout préférant vivre en banlieue, plus près de la nature, dans des maisons individuelles, d'où des gradients de densité très faibles avec un grand étalement de la nappe urbaine et des déplacements presque exclusivement par automobile. Des plans en damier, pourtant très réguliers, donc apparemment planifiés. Et un zonage et des ségrégations sociales et d'activités plus accentuées que dans les villes européennes en général. Voilà par exemple une image du plan sur lequel la ville de Dallas a été construite. Ce plan date du 19e siècle et on repère très bien le plan en damier qui a présidé à l'établissement de la ville. Le troisième modèle que nous pourrions retenir est celui des villes asiatiques actuelles, qui conservent des densités extrêmement élevées à l'échelle mondiale, mais qui ont également une certaine compacité et des contrastes de densité entre centre et périphérie qui sont toujours très forts. Le centre y est valorisé, les castes riches en Inde préfèrent habiter au centre, et nous avons en revanche des centres où le patrimoine urbain n'a pas toujours été préservé avec la même attention qu'en Europe. Donc des tours pour la résidence des populations et une planification urbaine souvent très attentive en Inde et aussi en Chine. Pour conclure, nous pouvons considérer que l'histoire des villes étant extrêmement longue et les influences qu'elles ont subies extrêmement variées, nous allons vers des organisations urbaines mixtes qui mélangent plusieurs de ces modèles. Et c'était déjà l'observation que faisait Jean Gottman, l'auteur de La Mégalopolis, à propos des villes, vous le voyez, dans les années 1960. Il disait, les formes en damier, en toile d'araignée, demeurent fort importantes et utiles, même dans les structures nébuleuses des immenses agglomérations de notre temps et de demain.